Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
Allez, 18h, bientôt 40 minutes, vous écoutez RTL. Et on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Cini, Laurent Tessier, Anaïs Bouissou. L'info autrement, le plein de curiosités pendant 20 minutes. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait les déclarations de candidature à la présidence. Télé, radio, presse ou internet, on a fouillé les archives avec un historien. Au menu également, la malchance qui poursuit Miss France 2020. Aïe, aïe, aïe. Le Canada, obligé de puiser dans ses réserves stratégiques de sirop d'érable. Aïe, aïe, aïe. Et un coup de foudre à la maison de retraite. Aïe, aïe, aïe. On défait le monde la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
N'aurais pas le droit de me dérober. Je suis donc candidat.
Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
Oui, je propose ma candidature.
Oui, je suis candidat.
Pompidou, Sarkozy, Mélenchon ou Chirac, petit florilège de ce moment charnière dans une présidentielle, l'acte de candidature à la une ce soir avec Éric Zemmour. Alors avec l'équipe dont défait le monde, eh ben on a choisi de se plonger dans les archives.
Quel est le moyen privilégié pour se déclarer candidat? Comment on faisait dans le passé et qui s'en est le mieux sorti?
Pour nous éclairer sur le sujet, on a contacté un historien, que dis-je ? L'historien, le spécialiste de la vie politique française, Jean Garrigue. Et d'abord, vu la portée symbolique d'une déclaration de candidature, le canal choisi par le candidat a toute son importance.
On va utiliser ce qu'on considère le plus adéquat par rapport à la campagne qu'on veut mener. La télévision n'est pas forcément, en tout cas le journal télévisé, ça parle à beaucoup de monde, mais ça peut donner l'impression qu'on n'est pas en contact direct avec les gens. Bon, certains ont choisi la presse écrite, ce fut le cas de Jacques Chirac pour une interview à La Voix du Nord, ce fut le cas de Nicolas Sarkozy en novembre 2006, l'entretien avec la presse quotidienne régionale. D'autres ont plutôt choisi la télévision. Ce fut le cas du général de Gaulle, avec un discours de 8 minutes, très martial. François Mitterrand, lui aussi, a choisi le... Alors lui, c'était le journal télévisé de 20 heures.
Donc, ce n'est pas toujours la télé qui gagne. Est-ce qu'il y a une déclaration plus marquante que les autres dans l'histoire?
Ah bah pour notre historien qui les a toutes disséquées, il y en a effectivement une qui se détache sans trop d'hésitation.
Celle qui a été très efficace quand même, c'est celle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, parce qu'il s'était déclaré du fond de sa mairie de Chamalières, parce qu'il voulait regarder la France au fond des yeux. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il voulait donc être dans la France profonde, dans le terroir, lui qui était quand même identifié à une France beaucoup plus élitiste. Ça, c'était une rupture avec tous les codes. Ça a été une réussite incontestable.
Alors du coup, c'est cadeau. Hein. On l'a cherché toute l'après-midi et on l'a retrouvé extrait.
Je m'adresse à vous, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien.
Et la candidature la plus ratée de toutes, il y en a bien une, non ?
Évidemment. Et là aussi, il n'y a pas photo pour Jean Garrigue.
Celle dont on dit qu'elle a été la plus ratée, c'est celle de Michel Rocard en octobre 1980, ce qu'on a appelé l'appel de Conflans, Conflans-Sainte-Honorine, dont il était le député maire. Il a voulu prendre de vitesse François Mitterrand. Son coup a manqué parce que d'abord c'était mal éclairé, on n'entendait pas très bien ce qu'il disait, puis surtout parce que trois semaines plus tard, Mitterrand s'est imposé comme le candidat du parti. Alors on dirait que c'est peut-être là la plus mauvaise déclaration de candidature.
Et comme on est sympa, on l'a pas cherché celle-là. Et on attend désormais, on n'avait pas trop le temps. Et on attend désormais de savoir comment Emmanuel Macron compte procéder pour 2022.
Affaire à suivre donc.
RTL. Sous les radars.
Allez, tous les soirs, vous le savez, on aime vous trouver des petites infos passées inaperçues dans On défait le monde. En tout cas, une info ce soir passée inaperçue de ce côté-ci de l'Atlantique.
Oui, une info assez surréaliste, c'est la panique chez nos cousins canadiens, Laurent.
Oui, une question agite le pays actuellement.
Parlons du sirop d'érable maintenant. C'est un peu notre pétrole au Québec, une signature internationale également pour le Canada. On se demande, est-ce qu'on va finir par manquer de sirop d'érable?
Oui, nos cousins doivent faire face à une menace d'une pénurie de sirop d'érable. Alerte générale. général pour tous les amoureux des pancakes. Le Canada doit puiser dans sa réserve stratégique pour répondre aux attentes. C'est très sérieux. Deux raisons. La demande a explosé au niveau mondial depuis le début de la pandémie. Plus 20%.
Ah bon ?
La production, oui, au printemps dernier, a été moins importante en raison des conditions météo au Québec qui produit environ 72% de l'approvisionnement mondial.
Mais alors attendez, il y a un truc dont il faut qu'on parle. La réserve stratégique de sirop d'érable. C'est important ça ?
On parle de 50 000 tonnes de sirop d'érable. Hélène Normandin est la directrice des communications pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec.
On prévoit qu'à la fin de l'année, donc avant la prochaine année de production, donc en février, on aurait utilisé environ la moitié.
Donc 25 000 tonnes de sirop d'érable pour répondre à la demande. Et pour que vous puissiez imaginer à quoi ressemble cette réserve, petite visite guidée.
L'entrepôt principal est à environ 2 heures de Montréal. Il y a une douzaine de personnes qui y travaillent. C'est l'équivalent de 5 terrains de soccer européen.
Ouais, et la capacité de production de sirop d'érable va aussi augmenter au Québec pour éviter cette pénurie.
C'est surréaliste.
Ah, j'aimerais tellement visiter les réserves stratégiques de sirop d'érable. Moi, j'adore ça.
Moi aussi.
C'est très fantastique.
J'en ai pris ce week-end.
Ah, c'est vrai?
Oui, en sur des pancakes.
On est ravis de savoir. Avec des petites myrtilles ou pas?
Non, sans myrtilles.
Non, sans myrtilles. Ne soyez pas fous. Une petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On va aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h46, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec, vous l'attendiez, la voici, la première info pour briller tout à l'heure au dîner.
Vous connaissez Twitter, le fameux réseau social à l'oiseau bleu. Twitter. Son cofondateur et dirigeant Jack Dorsey a dû démissionner. L'occasion de se demander d'où vient ce nom assez improbable, faut bien le reconnaître, de Twitter, Laurent.
Oui, Twitter, né en 2006. Alors au départ, les créateurs étaient partis sur le nom stat.us, mais en cherchant dans le dictionnaire, ils tombent sur le terme Twitter, sa définition, des gazouillis, légers chants émis d'un petit oiseau. Alors ils choisissent finalement, dans un premier temps, l'abréviation TWT. TW de TR. Voilà, la mode, c'était des combinaisons de lettres illisibles. Bon là, comme vous l'avez compris, les créateurs se rendent compte que c'est quand même galère à prononcer. Ils optent définitivement pour Twitter.
Voilà, la petite histoire.
Comment c'était au début ?
TW de TR. Impossible à dire.
Sans voyelle, en fait.
Exactement. Twitter.
Très bien. On a la petite histoire derrière les gazouillis du réseau social. Merci, Laurent.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Fini de rire. Anaïs Bouissou désigne maintenant le winner ou le loser du jour.
Et alors, on peut être déclaré loser, grand perdant, tant on semble poursuivi par une sorte de guigne. Et c'est le cas de votre championne du soir, Anaïs.
Eh oui, c'est terrible. Ce soir, on parle de Miss France 2020, Clémence Bottineau. Elle devait concourir pour Miss Univers dans moins de 2 semaines en Israël. Mais à peine arrivée sur place, elle est déclarée positive au Covid et risque d'être disqualifiée pour Miss Univers. Alors oui, c'est la grosse poisse, mais c'est surtout l'apothéose de 2 ans de shkoumoun, de mouise, de malédiction. Tout avait pourtant si bien commencé pour Clémence Bottineau. C'était il y a 2 ans, 14 décembre 2019, un véritable conte de fées.
Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe.
Et à l'époque, elle était encore pleine d'espoir.
Chaque jour aura sa nouveauté, donc j'ai hâte de voir ce que toute cette année me réserve. L'année, c'est vrai que je pense qu'elle sera riche en surprises.
Ah ben oui, des surprises, je ne croyais pas si bien dire. À peine 3 mois plus tard...
Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, en guerre, en guerre.
Voilà, fini la foire à la saucisse, écharpe sur l'épaule, confinée Clémence Bottineau. Et ce n'était que le début.
En plus de la crise sanitaire, du confinement, on va dire qu'il y a eu un événement très inattendu en juillet, c'est l'incendie de l'appartement Miss France.
Voilà, ah oui, appartement dévasté, Miss France sauvée in extremis. Donc vous voyez, si on rajoute son Covid pendant Miss Univers, c'est le pompon de la poisse. Et forcément, c'est ce qu'elle écrit sur son compte Instagram.
J'ai été dévastée parce que c'est trop. Je vous le dis honnêtement, c'est trop. Les 2 dernières années ont été jonchées d'épreuves. Mais celle-ci est rude.
Voilà, donc isolement strict pour Clémence Bottineau. Et au milieu de toute cette malchance, il reste un mini-espoir. En cas de rétablissement dans les 15 jours, elle a encore une toute petite chance de participer.
Et elle va gagner.
Participer, gagner.
Pour l'instant, c'est encore la lose.
Vraiment pas de chance, la pauvre Clémence Bottineau. On est tous derrière Miss France. Une petite pause dans un instant, une nouvelle info pour briller. Pour briller, comment on dit? Au dîner?
Au dîner.
On va revenir sur la panthéonisation. Ça, c'est plus dur à dire, mais j'y arrive. De Joséphine Baker, c'est en ce moment, vous le savez.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h52 minutes, on défait toujours le monde dans RTL Soir et on vous offre une seconde info pour briller au dîner parce que le dîner approche.
Joséphine Baker au Panthéon. On entend. Lieu incontournable, le Panthéon, pour expliquer l'histoire. Mais aussi, figurez-vous, pour l'astronomie.
Ah bon ?
Alors là, Naïs, il va falloir nous expliquer.
Oui, le Panthéon a permis d'apporter la preuve que la Terre tourne bien autour du Soleil. Oh. Alors, la Terre qui tourne, c'est Galilée qui l'a dit dans les années 1630.
Ouais,
mais
je me souviens.
Et pourtant, elle tourne, voilà. Mais la preuve, par l'image, si on peut dire, elle a été faite sous l'immense coupole du Panthéon en 1851. À l'époque, le physicien Léon Foucault a fixé une très grande corde au point le plus haut du Panthéon. Il y a accroché une grosse boule d'une quarantaine de kilos en laiton qui symbolisait la Terre. Vous voyez, ça a fait comme un immense pendule que vous faites tourner. Eh bien, le public ébahi s'est rendu compte qu'en bougeant, la boule ne revenait pas exactement à sa place. Elle décrivait une sorte de cercle. C'était une énorme attraction, plein de gens l'ont visitée et c'était la preuve donc que la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Ce pendule, il a été récemment réinstallé sous la coupole du Panthéon et on peut de nouveau l'y voir.
Donc c'est la preuve par l'exemple. Et donc comme tous les soirs, il faut choisir la meilleure des deux infos pour briller au dîner. J'en ai un peu marre de me faire taper dessus en antenne par les différents participants de cette émission. Donc ce soir, comme on a parlé de soleil et tout, c'est notre spécialiste météo, Peggy, qui va devoir choisir. Qu'est-ce qu'on choisit, Peggy ? L'anecdote de Anaïs sur le Panthéon ou l'anecdote de Laurent sur Twitter ?
Pardon Laurent, mais je vais prendre l'anecdote d'Anaïs. Par contre, j'ai bien la feuille.
Ça ne marche pas mieux quand ce n'est pas moi, cher Laurent. Et on continue bien entendu de suivre en ville rouge dans RTL Soir cette panthéonisation de Joséphine Baker. On va retrouver Sophie Orange qui est sur place dans le journal de 19h. C'est dans 5 minutes maintenant sur RTL.
Marche ou rêve ?
Tous les soirs, ça c'est le coup de fil qui redonne le sourire et... Mais quelle histoire ce soir, c'est formidable, émotion garantie.
Alors là, coup de cœur pour nous avec ce coup de foudre à la maison de retraite. Extraordinaire histoire d'amour, Laurent.
L'amour n'a pas d'âge. Jean et Lucette, 83 et 84 ans, se sont rencontrés à la résidence Senior Espace et Vie à Saint-Herblain, près de Nantes, et ils se sont même mariés le 6 novembre. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors, racontez-nous, Lucette, votre rencontre. Qui a fait le premier pas ? C'est vous ou c'est Jean ?
Oh non, c'est Jean. Il était très, très entreprenant.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Nous nous sommes connus pendant le confinement. Nous nous promenions une demi-heure tous les deux ensemble. Ça nous a beaucoup rapprochés. Et puis après, il est tombé amoureux fou. Et voilà.
Et vous aussi ?
J'ai résisté un bon moment. Et puis bon, vu sa gentillesse, son bonheur qui était visible, eh bien j'ai craqué.
Vous confirmez, Jean ?
Oui. J'étais fou de Lucette, alors.
Jean, comment avez-vous fait votre demande ?
Ouf, je ne me rappelle plus.
Il est venu en premier avec une plante verte.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle voilà. Est encore là. Elle est à ma droite, là, tout près.
Une façon de forcer la porte. Et puis après, avec de petits cadeaux presque tous les jours, y compris des bijoux, y compris, jusqu'au jour où il m'a dit « Ben voilà, c'est fait, j'ai acheté la voiture !» J'ai vu qu'il faisait des folies de plus en plus grosses, donc j'ai dit « Il faut que ça s'arrête, quoi
!» Est-ce que vous avez fait une cérémonie dans la résidence ? Comment ça s'est passé ?
Oui, nous avons commencé le matin par les préparatifs. Après la cérémonie à la mairie, à 2h moins le quart, l'après-midi, et nous avons fait un vin d'honneur à la résidence où tous les résidents étaient présents, avec un sourire, avec un petit moment de joie.
En robe blanche
Non, j'avais seulement un chemisier blanc.
C'est déjà bien.
Et Jean, vous étiez fait élégant pour la journée quand même.
Ah, il a mis le costume.
Ah oui, je m'étais acheté un costume. J'ai pas voulu aller plus loin parce que j'aurais pu mettre un de pape, mais ça faisait trop guindé. Ah.
Et vos enfants...
Par contre, j'avais fait venir mes amis, mes copains du club. puisque j'ai fondé un club informatique il y a 27 ou 28 ans de ça, et je suis toujours, malheureusement, toujours le président. Ils ne veulent pas me foutre dehors.
Et vous avez fait venir vos enfants ?
Enfants et petits-enfants.
Quelle était leur réaction quand ils ont appris que vous alliez vous remarier, donc ?
Les enfants un peu réticents, hein. Encore. Bon, moi, ce n'est pas la première fois. Et puis nos petites filles, nous avons quatre petites filles à tous les deux, deux chacun, étaient nos témoins.
Ah, c'est super.
Alors voilà. Elles étaient très heureuses, une première expérience pour elles de citoyenneté, quoi.
Et qu'avez-vous fait pour la lune de miel, Lucette et Jean ? Question un peu personnelle.
Ah bah écoutez, on est tellement fatigués qu'on n'est toujours pas rétablis, hein. On récupère pas comme à 20 ans, hein. On attend le soleil, parce qu'on a eu énormément de cadeaux, évidemment, dont des voyages, des croisières, toutes sortes de choses, des restaurants, d'Alta à l'assaut. Donc nous allons être très, très pris.
Ben merci, hein, Lucette. Et Jean, de nous avoir raconté votre histoire. Il n'y a qu'une seule chose à dire, vive les mariés.
Fabuleux, voilà. Vive les mariés.
Et encore,
et tout RTL s'associe à nous, hein. Vraiment.
Ah,
formidable
bah,
histoire.
Merci encore. Bon. Allez, on vous embrasse.
Au revoir.
On vous embrasse, Jean et Lucette. Et si, comme Jean et Lucette, bah, vous avez envie de nous raconter un petit bout de vos vies, de jolies initiatives, de jolis projets, des combats, des coups de cœur, franchement, vous êtes les bienvenus. On adore vous entendre tous les soirs dans Défait le Monde, dans RTL Soir, juste avant 19h, le mode d'emploi pour nous contacter, Cyprien.
Alors, il n'y a pas plus simple. En plus, Jean, il avait un club d'informatique, donc il est hyper bon.
Il
y a la page Facebook, il y a le compte Twitter, On Défait le Monde, et puis il y a Laurent qui est à l'affût et qui scrute tous vos messages. Il a des alertes sur son téléphone.
Partout.
Et on vous recontacte après pour qu'on puisse enregistrer tout ça.
On vous attend, les amis. Merci, la bande d'On Défait le Monde. On se retrouve demain, 18h40, dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera le journal de 19h.